talmudique.
Vous incliner bien le rite parce que sinon ça va pas aller, mais aussi c'est quelqu'un qui a une très grande force parce que elle sait passer aux jeunes, aux élèves, ce qu'elle sait faire et provoquer ça chez eux. Je voulais te rendre hommage. Après, on verra sur le film ce qu'on a à dire, mais déjà ça c'est quelque chose d'assez rare, de passer ce qu'on a de meilleur à la jeunesse, et c'est quelque chose que tu continues à faire. Tu étais la semaine dernière à Sam Spiegel School à Jérusalem. Donc voilà.
Que j'adore faire.
Oui.
Pour moi, j'ai l'impression que c'est l'impression la seule chose que je crois que je sais faire. C'est ça. Après,
il y a des films aussi. Hein. Donc, dire aussi qu'elle a fait l'image des films d'autres cinéastes, on va aller très très vite. Il y en a une centaine, je ne veux pas retracer toute ta carrière.
Carole Desbarra, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous vois surprise d'entendre votre propre voix. C'était à l'occasion d'une invitation autour du film d'annonce de Nourrit à vivre, dont nous avons parlé la semaine dernière à propos d'une rétrospective qui a lieu au Centre Pompidou du 6 novembre au 25 novembre. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes agrégée de lettres, critique et historienne du cinéma. Vous avez enseigné le cinéma à l'Université de Toulouse 2, puis vous avez dirigé les études de la FEMIS de 1996 à 2009, et que depuis cette date, vous êtes directrice de la communication et de la diffusion des savoirs à l'École normale supérieure, et vous êtes aussi engagée dans des questions d'éducation et de la transmission dans le cadre des Enfants de cinéma, une association chargée de la coordination nationale du dispositif École de cinéma. Lors de cette rencontre hors film avec Nourrit à vivre, vous aviez souligné à quel point, on vient de vous entendre, Nourrit à vivre était soucieuse de la transmission de l'art cinématographique, ce qu'elle fait très bien, aviez-vous dit, mais pourquoi tant d'énergie à transmettre? Que transmet le cinéma? Ou peut-être faut-il se demander, que permet-il aussi de transmettre? De quoi permet-il de faire l'expérience? En quoi est-il éducation et formation? Et peut-être, pour répondre à ces questions, il serait d'abord intéressant, Carole Desbarra, de découvrir ce qu'est l'association Enfants de cinéma.
Juste une chose, mon titre de gloire, vous ne l'avez pas dit, je suis enseignante. Voilà, je le dis parce qu'effectivement je suis comme Nourrit, je suis très fière de ça. Voilà, et que c'est plus important que d'autres choses. Cette association met en œuvre un dispositif qui est, comme collège au cinéma et lycée au cinéma, un des trois moyens pour les enfants dans toutes les classes à travers toute la France, tout le territoire, d'avoir accès à l'art cinématographique. Quand je dis accès, il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire que quand on est à Paris, on se rend pas compte. Mais quand vous êtes dans un village ou une toute petite ville, que vous n'avez pas de salle de cinéma à moins de 60 kilomètres, eh bien, il faut des bus pour aller voir des films. Beaucoup d'enfants n'ont pas vu de films dans une salle. Ils ont vu énormément de films, ils ont une très grande culture, les enfants. Ne pas se tromper, pas forcément la culture qu'on aimerait, mais ils ont une très grande culture. Donc les enfants de cinéma organisent le fait de leur montrer des beaux films dans le cadre écologique normal, à savoir la salle de cinéma. Et que quand un enfant aujourd'hui va au cinéma, eh bien il va voir les films qui sont les plus accessibles, ceux sur lesquels il y a le plus de publicité, sur lesquels il y a le plus de commentaires. Et nous pensons que nous pouvons leur donner accès à autre chose. Ce qui permet, à mon avis, de cultiver une sensibilité artistique. Et moi, je fais confiance aux enfants quand ils ont vu des beaux films pour faire la différence avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus voir de blockbuster. Moi-même, je pratique beaucoup le blockbuster. Mais ça veut dire qu'ils ont l'ouverture vers autre chose. Et cela couvre quand même, dans le secteur primaire uniquement, près de 800 000 enfants cette année, ce qui est quand même beaucoup.
Alors, en préparant ces émissions sur la rétrospective de Nourrit à vivre et sur cette question du rapport entre éducation et cinéma que nous évoquons aujourd'hui, j'ai pensé à un texte du Midrash qui commente le verset 14 du chapitre 20 de l'Exode, un verset célèbre que j'aimerais partager avec vous, en tout cas essayer de le commenter. Je le lis en hébreu. « V'chol am roim et akolot, v'et alapidim, v'et kol ha-shofar, v'et har ha-shen, v'yara am v'yana ou v'yamdu merachok. » Je traduis, et tout le peuple vire les voix, les flammes et la voix du chauffard et la montagne fumante. Et à propos de ce verset 14 du chapitre 20, il existe une discussion entre les maîtres du Talmud, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Et que peut signifier ce verset qui suit immédiatement la révélation des 10 commandements, qui énonce cette formule étrange où se mêle à la fois une erreur de grammaire, si on peut dire, et un illogisme. Que signifie l'expression « tout le peuple vire » ? Ne fallait-il pas dire « et tout le peuple vit » ? Et autre question, qu'est-ce que c'est que la vision des voix ? Qu'est-ce que c'est que la vision des voix ? Les voix ne sont-elles pas plutôt de l'ordre de l'écoute plutôt que de la vision ? Et à la première question, la réponse est simple. Quand un groupe fait une expérience, c'est en fait l'expression d'une pluralité d'expériences. Donc c'est le peuple, mais c'est chacun fait une expérience différente. Chacun entend et voit à sa façon, en fonction de son histoire personnelle, de sa formation et de sa culture, ce qui permettra de partager l'expérience, ce qui ne signifie pas que tous aient ressenti la même chose, mais échanger à partir de différences et de vécus différents. Quant à la seconde question, Rabbi Ishmael résout la difficulté en disant « Que signifie voir les voix ?» Il dit « La phrase est elliptique, tout le peuple vit ce qu'il y avait à voir et entendit ce qu'il y avait à entendre. » Mais Rabbi Akiva préfère comprendre que le peuple vit et entendit le visible, entendre le visible. Ce qui rappelle cette formule de Nourrit Aviv, la semaine dernière, qui a été reprise encore par Hélène Cixous, commentant Nourrit Aviv, le cinéaste doit voir ce qu'il entend et entendre ce qu'il doit voir. Ce que Lévinas commande de la manière suivante, le visible, c'est la voix devenue écriture. Entendre la voix, c'est passer par les lettres, passage de l'audible du langage qui raconte le monde au visible du livre. Une façon de penser la culture comme lecture des mots et des images. Culture fondée sur la lecture et l'interprétation. Culture comme exégèse, qui rappelle que dans tout mot et toute image, dit Lévinas, il y a un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur. J'ai l'intuition, Carole Desbarra, qu'en tant que critique de cinéma et que au cœur de cet engagement de l'enseignement du cinéma, ce texte vous parle particulièrement.
Ah, vraiment, oui. Vraiment, oui. Commençons par le premier point. J'ai une formation de grammaire, hein, de par mon enseignement. Et effectivement, un sujet général singulier et un verbe pluriel, forcément, ça m'interroge. Et si vous le permettez, je ferai le parallèle avec ce qui se passe dans la réception du film dans une salle de cinéma. C'est pour ça qu'on insiste tellement sur le fait de voir le film dans la salle de cinéma. C'est que lorsque vous êtes dans le noir, vous êtes dans une collectivité qui voit la même chose et jamais la même chose. Et ce qui se passe dans une salle, on le disait la semaine dernière à propos des rires qu'il y avait autour de Nourrit dans le dialogue. Ce qui se passe dans une communauté éphémère de gens réunis dans quatre murs, pour absorber une œuvre ou la rejeter, eh bien, c'est quelque chose qui, à la fois, se fonde sur du commun et, en même temps, forcément, sur du particulier. Mais ce particulier rejaillit sur le commun. Jamais on ne voit un film de la même manière dans deux salles différentes. Et ça, en tant que pédagogue, nous, on connaît ça par cœur. C'est-à-dire que vous voyez un film pour votre plaisir, c'est une chose. Vous le voyez dans une salle en pré-projection des enfants de cinéma pour vous dire « je vais montrer ça à des enfants ». Et tout d'un coup, vous êtes terrifié par un plan, vous dire « oh là là, comment les enfants vont réagir à ça ?» C'est-à-dire que vous avez de l'horizon d'attente personnelle, de vie, d'histoire qui interfère. Et forcément, il y a des ondes dans une salle. Et ça joue. Donc, ce collectif au pluriel me semble tout à fait correspondre à l'expérience du spectateur de cinéma. C'est ça, c'est ce que moi j'aime dans cette idée d'être spectateur de cinéma. L'autre chose, plus importante, sur la question du visible, des voix. Moi, il y a un texte que je suis assez ignorante, mais il y a un texte que j'aime beaucoup, qui est dans la Genèse. Juste après que Adam et Ève ont consommé le fruit interdit, c'est « ils entendirent les pas de Dieu qui se promenaient dans le jardin à la brise du jour », je crois que c'est ça. Je trouve ce verset absolument magnifique, c'est un point de vue laïque, c'est vrai, mais c'est magnifique parce que à la fois c'est d'une poésie absolue, c'est-à-dire entendre sans voir, et on ne peut pas voir Dieu, puisqu'il est l'irreprésentable. Et en même temps, avoir cette délicatesse de description du son, c'est presque quelque chose que, pardon, je vais être, j'espère que vous ne prendrez pas ça pour de la provocation, mais quelque chose qu'un cinéaste pourrait dire à son ingénieur du son et à son chef-op, dire, voilà, on ne va pas voir, mais il faut qu'on entende quelque chose de très délicat qui permette de désigner une présence sans la montrer. Et je trouve que ce verset de la Bible dit quelque chose en plus sur la présence du jardin, enfin bon, paradis, tout ça, c'est très très important, qui nous ramène à cette question de l'écoute et du visible. J'ai souvent entendu des ingénieurs du son dire que pour le documentaire, ils voulaient se mettre à côté de la caméra. C'est-à-dire, j'inverse la proposition, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de savoir ce qu'il y avait dans l'angle de la caméra pour prendre le son. Et c'est tout à fait logique. Et inversement, cette idée comme ça d'entendre, c'est la seule chose qui me ferait être un petit peu en désaccord avec Hélène Cixous que nous avons entendu la semaine dernière. Je ne pense pas qu'il faille entendre un film les yeux fermés, et puis ensuite, il ne faut pas diffracter, sauf dans l'étude. Oui, bien sûr, un film. Mais c'est vrai que pour un chef opérateur, il est très important de savoir ce qui se passe au son. Ce qui fait d'ailleurs que ça change complètement lorsque vous avez du son direct ou pas. Lorsque vous savez que le son va être complètement refait en studio, vous ne travaillez pas de la même manière, bien évidemment. Vous imaginez bien que Nourrit travaille avec du son direct. Et que donc cette correspondance, elle est forte. Mais
Ce que dit le commentaire qu'en fait Lévinas, au-delà de cette poésie magnifique que vous évoquez, c'est que ce qu'on entend, voir les voix, in fine, c'est voir le texte. Et voir le texte, c'est voir des mots. Et voir des mots, c'est lire. Et lire, c'est apprendre la lecture. Et je me suis demandé, et bien que je le sache, j'ai l'intuition, quel sens donner à la lecture de l'image? Est-ce que nous sommes pas justement dans ce moment très très particulier de la civilisation où nous sommes dans un déluge, je continue la métaphore biblique, un déluge d'images qui fait que notre regard n'est plus suffisamment éduqué. J'ai lu sous votre plume qu'on parle de regard saturé et qu'il faut apprendre à lire l'image. Est-ce que c'est pas une des fonctions essentielles de cet engagement dans laquelle vous inscrivez, Carole Desbarra?
Tout à fait. Et puis il faut souligner aussi la beauté absolue de cette métaphore que je ne connaissais pas de l'oiseau qui a des ailes repliées dans le texte. C'est absolument splendide. C'est ce que nous essayons de faire. C'est essayer de, on disait, avoir des éclats, ouvrir, faire que le texte s'ouvre. Et je prends le film comme un texte au sens fort du terme, c'est-à-dire un tissu dans lequel des éléments s'entrelacent, dans lesquels des choses se répondent et qui n'ont pas toujours été voulues par le réalisateur, qui n'est pas un dieu tout-puissant, qui peut tout à fait avoir mis sans le vouloir des éléments qui, une fois l'œuvre constituée, s'offrent à la lecture. Et pour moi, la cinéphilie fait appel à l'herméneutique, c'est-à-dire la passion d'interpréter. C'est ce qu'on fait tout le temps.
Pourquoi voulez-vous entendre mon histoire? Est-ce que nous nous connaissons? Est-ce que nous nous aimons? Laissez-moi vous prévenir, ok? Je suis pas un gars sympathique. L'amabilité n'a jamais été une priorité pour moi. Et franchement, je dois vous le dire, c'est loin d'être le film guimauve de l'année. Alors si vous êtes un de ces idiots qui veut monter au 7e ciel, courez vite vous faire masser les pieds.
Maman, regarde, le monsieur, il parle tout seul.
Allez, viens, Justin.
Qu'est-ce que ça signifie, d'ailleurs? Rien du tout. Zéro. Niente. Rien n'engendre rien. Une chose est sûre, c'est qu'on ne manque pas d'idiots qui bavassent. Pas moi. Moi, j'ai une vision. Moi, je discute de vous, de vos amis, de vos collègues, et puis de votre presse, de la télé. Tout le monde se plaît à parler, bourré de désinformation, de moralité, de science, de religion, de politique, de sport, d'amour, de vos actions et de vos enfants. De la santé, Seigneur. Si je dois manger 9 fruits et légumes par jour pour vivre, moi, je veux pas vivre. J'ai horreur de ces fruits et légumes et de vos oméga-3, de courir sur des tapis roulants et des cardiogrammes et des mammographies et des échographies pelviennes et, oh mon Dieu, de la coloscopie. Et malgré tout, le jour va arriver où on vous mettra dans une boîte. Et c'est le tour de la nouvelle génération d'idiots qui vous parlera aussi sans fin de la vie et qui vous dira ce qu'il convient de faire. Mon père, lui, s'était suicidé parce que la presse du matin le déprimait. Et peut-on l'en blâmer? avec les horreurs, la corruption, l'ignorance, la pauvreté, le génocide, le sida, le réchauffement de la planète, et le terrorisme, et les valeurs familiales à la con, et les fous de la gâchette. L'horreur, Kurtz disait à la fin du Cœur des Ténèbres. L'horreur. Vénard de Kurtz, on lui livrait pas le Times dans la jungle. Là, il aurait vu l'horreur. Mais que faire? Vous lisez qu'il y a un massacre au Darfour, ou que un bus scolaire a explosé, et vous dites, oh mon Dieu, l'horreur. Et puis après, vous tournez la page, vous finissez vos œufs de poule élevés en plein air. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est trop accablant. Moi aussi, j'ai essayé de me suicider. Comme vous voyez, ça n'a pas marché. Mais pourquoi vous voulez entendre tout ça? Vous avez vos propres problèmes. Je pense que vous êtes obsédé par un grand nombre de rêves tristes et de petits espoirs.
Carlos Vara, on vient d'entendre ce film, un extrait de ce film tout à la fois drôle et sérieux de Woody Allen. Qui s'appelle Whatever Works, où un homme s'adresse directement à la caméra et au public, et pour raconter sa vie, alors il nous parle de l'honnêteté, de la morale, du bien, du mal. Le cinéma permet-il de se repérer plus facilement entre le bien et le mal? N'est-il pas constamment, malgré l'éducation du regard qu'on évoquait, au risque de l'identification avec l'intrigue, avec les personnages, et parfois devenir la source de comportements dangereux? Et donc je me demandais comment s'y joue la question de la morale, question naïve, vous allez me dire, sans
non,
doute.
Non, essentielle.
Mais n'y a-t-il pas un danger du cinéma? Et donc comment choisir ces films et comment les choisissez-vous pour le proposer au dispositif enfant de cinéma, Carole Desbarra?
Alors là, il faut au moins 3 heures. Mais voilà. Bon, on va essayer de faire court. Donc oui, il y a des questions de morale, bien évidemment, mais comme dans l'art. Je veux dire que... Si Bataille avait aimé le cinéma, il aurait pu dire le cinéma est le mal et non pas la littérature est le mal. Le cinéma, parce qu'il est un art, a affaire au mal. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est essentiel dans la fiction. Et attention, à partir du moment où vous mettez une caméra et vous faites un cadre, vous êtes dans la fiction. Et je pense que Nourrit à vivre ne dirait pas le contraire, même si vous examinez le réel. Or, examiner le mal ne veut pas dire l'approuver. Et ça ne veut pas dire non plus le prôner. Et c'est, en fait, pour répondre à votre question, c'est dans la façon dont on prépare la place du spectateur que se situe la morale. Je veux dire par là que, je vais prendre un grand film, je vais prendre un exemple classique. M. le Maudit, 1931. C'est un film sur un serial killer pédophile. Je sais que d'habitude on ne le présente pas comme ça, mais c'est quand même ça. Jamais Fritz Lang ne nous dit que le personnage a raison. Mais jamais non plus il dit que ceux qui veulent l'exécuter ont raison. Il nous donne les éléments pour faire que nous ayons la possibilité de nous situer face à ça. Alors, bien sûr, pendant le film, il peut m'arriver, en processus d'identification, d'être emporté en sympathie avec un bourreau. Mais c'est le film, il s'arrête. Et lorsqu'on sort, et c'est une des valeurs principales aussi actuellement de montrer des films aux enfants, montrer des choses qui s'arrêtent, pas un flux continu. Et lorsque vous sortez du film, justement, le fait de rajouter une parole, et là nous rejoignons Nourrit à vivre, le fait de rajouter une parole, quand c'est des enfants, un dessin. Vous n'allez pas demander à des enfants de discourir lorsqu'ils ont 4-5 ans sur un beau film qu'ils ont vu. Ça peut être parfaitement passé par un autre mode d'expression. Mais c'est quelque chose qui permet de se réapproprier par du symbolique ce qui a été vécu sur l'émotion. On apprend des choses par l'émotion. L'émotion nous apprend des choses. Vous disiez, il peut y avoir de la propagande dans les textes aussi, dans la peinture aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui existe dans toutes les formes d'art. Le cinéma n'est pas plus critiquable que les autres formes d'art là-dessus.
C'est pour cela que j'insistais dans le texte du Talmud que nous avons évoqué sur l'importance de la lecture. C'est-à-dire que une société, une culture fondée sur la lecture, c'est-à-dire une éducation à savoir, à comprendre, comprendre les mots, comment les accepter ou comment les rejeter, comment les discuter. Et ce que vous avez dit sur le rapport à l'herméneutique fait que le rapport que j'ai par rapport au texte et le rapport que vous avez par rapport au cinéma. Et vous avez dit, vous voyez le film comme un texte, comme un tissu. Je pensais à cette phrase du Talmud qui parle du rêve. Et dans le rêve, on a des images. C'est une forme de cinéma personnel. Et le Talmud dit il faut interpréter les textes, les textes comme les rêves avant d'interpréter les rêves comme des textes. Donc je crois qu'il y a ici quelque chose sur l'importance de la lecture qui se continue, de la lecture, pas simplement de savoir lire des mots, mais de savoir, de comprendre, d'être attentif. Ça veut dire, c'est pas le savoir lire, ce qu'on appelle savoir lire. Et c'est cette question que je voulais souligner, et je voulais savoir comment, par rapport à vos petits regardeurs, vous travaillez cette question de la lecture d'un film.
Alors, c'est une question essentielle, c'est-à-dire que on prépare les enfants. Les enfants qui vont à école et cinéma ont un travail avant de venir la première fois dans une salle. Parce que vous n'imaginez pas un gosse de 4 ans ou 3 ans qui n'est jamais venu dans une salle et qui voit, comme disait Malraux, une tête plus grande que la sienne sur l'écran, peut avoir très peur. Donc on leur explique, c'est un espace séparé, je ne dirais pas sacré, mais séparé, dans lequel on ne se comporte pas de la même manière qu'à l'extérieur. On ne mange pas, on ne boit pas, si on parle, c'est tout doucement et on essaie de ne pas parler. Donc, de construire les conditions d'une réception. Et puis, on parle un peu du film, sans raconter, sans faire de mise en condition. Mais si, par exemple, il y a une information à donner, on la donne. Je vous donne un exemple précis. On montre un film magnifique, qui est un documentaire de Denis Gerdband, qui s'appelle « La vie est immense et pleine de dangers ». C'est un film qui a été tourné au pavillon des enfants cancéreux et avec des enfants qui sont atteints du cancer. Certains enfants sont absolument, mais magnifiques de maturité, de pensée, etc. Les enfants sortent très bien de ce film. C'est les enseignants qui ont très très peur. Et donc, on explique des choses toutes simples. Le cancer, ça n'est pas contagieux. Vous voyez, des choses qui sont objectives, de manière à ce que l'enfant puisse avoir sa liberté par rapport au film. Quand il a vu le film, et ça c'est un travail que nous faisons avec les enseignants, nous partons du principe que personne n'est obligé d'aimer un film. On n'est pas obligé. Ce qui est intéressant, c'est de le voir en commun. Et au contraire, peut-être même que si on ne l'a pas aimé, on va développer l'appropriation du goût esthétique et que c'est aussi important d'aimer que de ne pas aimer. Tant mieux si on aime. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on essaie de faire que les enseignants n'apportent pas une parole surplombante, mais qu'ils soient là pour faire que la parole tourne, non pas que les enfants aient un savoir absolu, il faut leur apporter des éléments, mais c'est essayer de jouer entre des éléments objectifs, comme on le disait la semaine dernière à propos de Daniel Arras, c'est-à-dire des éléments précis, et d'autre part, de laisser toujours une place à l'interprétation personnelle. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas en train de dire autre chose que ce qu'il y a sur l'image, vous ne dites pas que ça se passe en Chine alors que ça se passe aux États-Unis, il peut y avoir une marge sur ce plaisir herméneutique. Et moi, je crois que les cinéphiles sont des interprétateurs fous. Ils adorent ça. Le danger avec eux, c'est quand ils se mettent à complètement oublier le texte. Donc, pour moi, c'est une balance entre le respect scientifique de ce qu'on a vu, c'est-à-dire ça a été produit à telle époque à Hollywood avec tel type de distribution, tel type de... C'était sous le macartisme, donc on ne pouvait pas faire ceci et cela. C'est une chose. Et à côté de ça, se rendre compte que la perception que nous avons du film, elle a évolué, qu'un film de 54, si je le vois en 2015, je ne le vois pas de la même manière que le spectateur contemporain. Et une dernière chose, si vous permettez, et ça c'est personnel, je ne parle pas des enfants de cinéma, mais je parle de moi. Je pense que je lutte complètement contre l'idée que le réalisateur est dépositaire du sens de son film. Justement en fonction de ce que je disais là. C'est-à-dire que le réalisateur met certaines choses dans son film, nourrit sa vie, met certaines choses dans son film. Elle choisit des cadres, elle choisit de faire un cadre fixe pour montrer une fenêtre. C'est quelque chose qui vient de son passé de photographe, de son désir d'être entre, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Nourrit ta vie, c'est une cinéaste qui est entre tout. Et ça va dans le sens de notre discussion. C'est ne pas être assigné. Et donc le sens ne doit pas être assigné au réalisateur, pas assigné à résidence, tout en respectant des faits objectifs.
Avant la fin du montage, Pierrot, qui avait un cancer, est mort. Suzou a élevé ses deux fils, Blaise et Vincent. Je les ai invités à partager un petit cérémonial autour d'une jarrette du film. Un dispositif pour leur montrer le film des essais qu'ils n'avaient jamais vu. Ils connaissaient des photos de leur père, mais ils ne l'avaient jamais vu en mouvement.
C'est une scène magnifique. qui est une scène improvisée. C'est une sorte de fictionnalisation du réel. C'est là où le travail d'Agnès est intéressant, parce qu'il met toutes ces choses en perspective plutôt que de les opposer. Donc fiction et réalité viennent se rejoindre. Il y a donc toute une mise en abîme sur le plan esthétique, puisque c'est l'image dans l'image, mais aussi sur le plan théorique et sur le plan de l'histoire, parce que il y avait une grande émotion qui se dégage de cette scène-là, où les enfants qui poussent cette charrette, à un moment où en plus la nuit tombait, donc ça a été un peu compliqué de tourner cette scène, il a aussi fallu s'adapter aux éléments extérieurs, avoir de l'image, pouvoir voir ce qui se passait, mais voir aussi à l'image tout ce dont on parlait. Et les enfants, il n'y a eu qu'une seule prise, c'est-à-dire que les enfants qui poussaient cette charrette découvraient en même temps leur père en mouvement qu'ils n'avaient connu toute leur vie qu'en photographie. Et je trouve que ça résume vraiment très très bien ce désir ou cette volonté tout simplement de mettre les images en perspective.
J'ai l'impression que l'extrait que j'ai choisi ici, c'est pour souligner qu'à côté de cette fonction de l'éducation du regard, j'ai l'impression qu'il y a une fonction fondamentale de la mémoire du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, comme un conservatoire des visages et des voix, des événements aussi. Là, on a un dispositif inventé pour que des enfants qui n'ont jamais connu leur père en mouvement puissent le voir. Et moi, j'ai été très ému, ici c'est quelque chose de très très personnel. Par exemple, au début du film d'Agnès Varda intitulé « Les documentaires », de voir le visage de Sabine Mamou, un visage beau, serein, tranquille, parce que Sabine Mamou est une amie proche de Nourrit Aviv, mais elle était la monteuse de la plupart des films d'Agnès Varda. Elle a travaillé aussi, entre autres, avec Lanzmann et Jacques Demy, et elle a étudié le Talmud avec moi pendant plus de 10 ans, à raison de 3-4 soirs par semaine, c'est quand même beaucoup. Et j'ai eu le bonheur que, avec son ami Julio Maruri, elle a traduit un de mes livres en espagnol, celui que justement vous avez évoqué la semaine dernière, qui s'appelle « Lire aux éclats ». Et je pense à cette phrase d'un des fondateurs d'Hollywood, j'ai pas retrouvé l'auteur, qui dit « Avec l'invention du mouvement, nous avons vaincu l'espace. Avec l'invention du parlant, nous avons vaincu le temps. Avec l'invention de la couleur, nous vaincrons la mort. » Alors je crois que, en voyant Sabine, que j'ai compris la question que porte cette phrase, mais en même temps cette idée que le cinéma, dans son essence, presque ontologiquement, a un rapport à la mémoire. Carole Desbarra.
Oui, tout à fait. C'est ce que disait aussi André Bazin, le grand André Bazin, qui disait qu'effectivement, seul le cinéma arrivait à rendre compte de la mort. C'est peut-être ça qui a été dit. Sur Sabine Mamou, je vous rejoins complètement. Sabine a été enseignante à la FEMIS. Enseignante, oui, au sens le plus noble du terme. Et je peux vous dire que les élèves qui étaient monteurs et qui étaient avec elle en gardent un souvenir extrêmement fort, tout autant que Nourrit, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire une grande générosité. Mais pour en revenir à cette question, effectivement, de comment ça fonctionne, comment la mémoire cinématographique fonctionne, on le retrouve à tous les niveaux. Si on parle de la nécessité d'enseigner le cinéma, de montrer des films aux enfants, etc., c'est aussi pour ça. Vous disiez la mémoire des corps. En 85-86, à Toulouse, à la Cinémathèque, on avait fait une rétrospective des films de Godard. C'était une des premières rétrospectives de films de Godard. Et j'avais été très frappée par l'expression d'une jeune fille qui m'a dit « Ah, je viens voir ces films parce que je veux voir à quoi ressemblait ma mère dans les années 60. » Effectivement, elle venait voir le corps d'Anna Karina pour s'imaginer sa mère au même âge. Il y a cette fonction d'enregistrement des corps, c'est sûr, et puis cette fonction aussi de donner le passé à voir. Ça ne veut pas dire que pour donner le passé à voir, il faut le voir de manière immédiate. Ça ne vient pas immédiatement, c'est du travail. Vous pouvez reprendre des images, les travailler, les recouper pour que votre spectateur, à la fin, perçoive quelque chose et se dise « Ah, mon Dieu, c'était ça ?» et non pas ce que je croyais. Donc, ça n'est pas immédiat. Ça dépend de l'art cinématographique, du cadrage, du montage, de la vision, effectivement. Et c'est une des fonctions qui font que c'est important de montrer des films au jeune public, pour qu'il voit autre chose. C'est-à-dire la mémoire vers le passé. C'est vrai aussi, si je peux me projeter dans l'espace, voir un petit Iranien. Quand on est un gamin qui vit du côté de Vic Fezensac, c'est important parce qu'on se rend compte que ce petit Iranien qui court à travers, je fais allusion au film de Kiarostami où est la maison de mon ami, qui court pour rendre service à un autre copain, mais il a les mêmes émotions que lui. En fait, si vous voulez, je fais allusion là au travail de Martha Nussbaum, qui est une philosophe tout à fait remarquable, qui avait fait un travail sur les émotions démocratiques, en disant que le cinéma, entre autres, permettait justement de développer ces émotions démocratiques. Que voulait-elle dire là ? Elle parlait à la lumière des développements récents, depuis les années 90, des sciences neurocognitives. La découverte des neurones miroirs, je vous renvoie au dernier film de Nourita Vive, Poétique du cerveau, qui parle de ça. Mais surtout, elle se fondait là-dessus pour dire ce qui est important quand on montre des films et des œuvres d'art, mais des films en particulier, c'est qu'on ouvre la possibilité de comprendre l'autre. Ça ne veut pas dire de l'accepter, ça revient à ce qu'on disait sur M. Le Maudit. On n'accepte pas. On peut montrer des tyrans, on peut montrer des brutes, des sadiques, ce n'est pas un problème. La question c'est, est-ce qu'on nous donne la possibilité d'exercer notre libre arbitre ? Est-ce que le cinéma nous permet de vivre des émotions qu'ensuite nous interrogeons une fois sortis sur le soleil de la place ? C'est aussi ça, transmettre le cinéma.
Merci Carole Desbarra pour tous ces commentaires, ces belles explications. Où il y a à la fois toute l'objectivité de la science cinématographique, toute la passion de cette subjectivité aussi que vous nous permettez de partager. Merci pour ces deux émissions. Je suis sûr que avec tous vos commentaires, les auditeurs n'auront plus le même rapport à l'image et au cinéma. Merci de nous avoir fait entrer dans le cinéma de Nourita Vive. Merci encore.
Merci à vous.
C'était Talmudic, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la prise de son Philippe Palares, à la réalisation d'Annie Journaud. Vous trouverez sur le site de l'émission, que vous pouvez écouter et podcaster, tous les détails concernant Carole Desbarra, notre invitée d'aujourd'hui, ainsi que le programme complet de la rétrospective de Nourita Vive, Koltouv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.